Livre 7, la Titane. Chapitre 1, réveil. Dea ! Il sembla à Gwynplaine, regardant poindre le jour Corleone Lodge pendant ses aventures de Linted Kester, que ce cri venait du dehors. Ce cri était en lui. Qui n'a entendu les profondes clameurs de l'âme ? D'ailleurs, le jour se levait. L'aurore est une voix. À quoi servirait le soleil si ce n'est à réveiller la sombre endormie ? La conscience. La lumière et la vertu sont de même espèce. Que le Dieu s'appelle Christ ou qu'il s'appelle Amour, il y a toujours une heure où il est oublié, même par le meilleur. Nous avons tous, même les saints, besoin d'une voix qui nous fasse souvenir. Et l'aube fait parler en nous l'avertisseur sublime. La conscience crie devant le devoir, comme le coq devant le jour. Le cœur humain, ce chaos, entend le fiat lux. Gwynplaine, nous continuerons à le nommer ainsi, Clan Charlie est un lord, Gwynplaine est un homme. Gwynplaine fut comme ressuscité. Il était temps que l'artère fût liée. Il y avait en lui une fuite d'honnêteté. « Et Dea, dit-il, et il sentit dans ses veines comme une transfusion généreuse. Quelque chose de salubre et de tumultueux se précipitait en lui. L'irruption violente des bonnes pensées, c'est un retour au logis de quelqu'un qui n'a pas sa clé et qui force honnêtement son propre mur. Il y a escalade, mais du bien. Il y a effraction, mais du mal. Dea, « Dea, Dea !» répéta-t-il. Il s'affirmait à lui-même son propre cœur. Et il fit cette question à haute voix. « Où es-tu ? » Presque étonné qu'on ne lui répondît pas, il reprit, regardant le plafond et le mur, avec un égarement où la raison revenait. « Où es-tu ? Où suis-je ? » Et dans cette chambre, dans cette cage, il recommença sa marche de bête farouche enfermée. « Où suis-je ? » À Windsor. « Et toi ? » À Southwark. « Ah, mon Dieu, voilà la première fois qu'il y a une distance entre nous. Qui donc a creusé cela ? Moi ici, toi là ? Oh, cela n'est pas. Cela ne sera pas. Qu'est-ce donc qu'on m'a fait ?» Il s'arrêta. « Qui donc m'a parlé de la reine ? Est-ce que je connais cela ? Changer, moi changer, pourquoi ? Parce que je suis lord ? Sais-tu ce qui se passe, Dea ? Tu es lady. C'est étonnant les choses qui arrivent. Ah, ça, il s'agit de retrouver mon chemin. Est-ce qu'on m'aurait perdu ? Il y a un homme qui m'a parlé avec un air obscur. Je me rappelle les paroles qu'il m'a adressées. Milord ? Une porte qui s'ouvre ferme une autre porte. Ce qui est derrière vous n'est plus. Autrement dit, vous êtes un lâche. Cet homme-là, le misérable, il me disait cela pendant que je n'étais pas encore réveillée. Il abusait de mon premier moment étonné. J'étais comme une proie qu'il avait. Où est-il que je l'insulte ? Il me parlait avec le sombre sourire du rêve. Ah, voici que je redeviens moi. C'est bon. On se trompe si l'on croit qu'on fera de Lord Clancharlie ce qu'on voudra. Père d'Angleterre, oui, avec une pairesse qui est Dea. Des conditions. Est-ce que j'en accepte ? La reine ? Que m'importe la reine ? Je ne l'ai jamais vue. Je ne suis pas Lord pour être esclave. J'entre libre dans la puissance. Est-ce qu'on se figure m'avoir déchaîné pour rien ? On m'a démuselé, voilà tout. Dea. « Ursus, nous sommes ensemble. Ce que vous étiez, je l'étais. Ce que je suis, vous l'êtes. Venez, Non, j'y vais. Tout de suite. Tout de suite. J'ai déjà trop attendu. Que doivent-ils penser de ne pas me voir revenir? Cet argent, quand je pense que je leur ai envoyé de l'argent, c'était moi qu'il fallait. Je me rappelle cet homme. Il m'a dit que je ne pouvais pas sortir d'ici. Nous allons voir. Allons, une voiture! Une voiture! Qu'en a-t-elle? Je veux aller les chercher. Où sont les valets? Il doit y avoir des valets, puisqu'il y a un seigneur. Je suis le maître ici, c'est ma maison. Et j'en tordrai les verrous, et j'en briserai les serrures, et j'en enfoncerai les portes à coups de pied. Quelqu'un qui me barre le passage, je lui passe mon épée au travers du corps. Car j'ai une épée maintenant. Je voudrais bien voir qu'on me résista. J'ai une femme qui est Déa. J'ai un père qui est Ursus. Ma maison est un palais et je le donne à Ursus. Mon nom est un diadème et je le donne à Déa. Vite, tout de suite, Déa, me voici. Ah, j'aurai vite enjambé l'intervalle, va. Et levant la première portière venue, il sortit de l'antichambre impétueusement. Il se trouva dans un corridor, il alla devant lui. Un deuxième corridor se présenta. Toutes les portes étaient ouvertes. Il se mit à marcher au hasard, de chambre en chambre, de couloir en couloir, cherchant la sortie. Chapitre 2. Ressemblance d'un palais avec un bois. Dans les palais à l'italienne, Corleone Lodge était de cette sorte. Il y avait très peu de portes. Tout était rideaux, portières, tapisseries. Pas de palais à cette époque qui n'eût à l'intérieur un singulier fouillis de chambres et de corridors où abondait le faste. Dorures, marbre, boiseries ciselées, soie d'Orient, avec des recoins pleins de précautions et d'obscurité, d'autres pleins de lumière. C'étaient des galetas riches et gais, des réduits vernis, luisants, revêtus de faïence de Hollande et d'ajulés roses de Portugal, des embrasures de hautes fenêtres coupées en soupente et des cabinets tout en vitre, jolies lanternes logeables. Les épaisseurs de murs, évidées, étaient habitables. Ça et là, des bonbonnières qui étaient des garde-robes. Cela s'appelait les petits appartements. C'est là qu'on commettait les crimes. Si l'on avait à tuer le duc de Guise ou à fourvoyer la jolie présidente de Sylvécane, ou plus tard à étouffer les cris des petites qu'amenait Lebel, c'était commode. Logis compliqué, inintelligible à un nouveau venu. Lieu des raptes, fonds ignorés où aboutissaient les disparitions. Dans ces élégantes cavernes, les princes et les seigneurs déposaient leur butin. Le comte de Charolais y cachait Madame Courchamp, la femme du maître des requêtes. Monsieur de Montulé y cachait la fille de Audry, le fermier de la Croix Saint-Lanfroy, le prince de Conti y cachait les deux belles boulangères de l'île d'Adam. Le duc de Buckingham y cachait la pauvre Pennywell, etc. Les choses qui s'accomplissaient là étaient de celles qui se font, comme dit la loi romaine. Vi clam et precario, par force, en secret et pour peu de temps. Qui était là y restait selon le bon plaisir du maître. C'étaient des oubliettes dorées. Cela tenait du cloître et du sérail. Des escaliers tournaient, montaient, descendaient. Une spirale de chambre s'emboîtant vous ramenait à votre point de départ. Une galerie s'achevait en oratoire. Un confessionnal se greffait sur une alcôve. Les ramifications des coraux et les percées des éponges avaient probablement servi de modèle aux architectes des petits appartements royaux et seigneuriaux. Les embranchements étaient inextricables. Des portraits pivotant sur des ouvertures offraient des entrées et des sorties. C'était machiné. Il le fallait bien. Il s'y jouait des drames. Les étages de cette ruche allaient des caves aux mansardes. Madrépores bizarres incrustés dans tous les palais, commencés par Versailles, et qui étaient comme l'habitation des pygmées dans la demeure des titans. couloir, reposoir, nid, alvéole, cachette. Toutes sortes de trous où se fourraient les petitesses des grands. Ces lieux, serpentants et murés, éveillaient des idées de jeu, d'yeux bandés, de mains à tâtons, de rires contenus, Colin Maillard, cache-cache, et en même temps faisait songer aux Atrides, aux Plantagenets, aux Médicis, aux sauvages chevaliers d'Els, à Rizzio, à Monaldeschi, aux épées poursuivant un fuyard de chambre en chambre. L'Antiquité avait, elle aussi, de mystérieux logis de ce genre, où le luxe était approprié aux horreurs. L'échantillon en a été conservé sous terre dans certains sépulcres d'Égypte, par exemple dans la crypte du roi Psaméticus, découverte par Passalacqua. On trouve dans les vieux poètes l'effroi de ces constructions suspectes. Error sicum flexus locus implicitus giris. Gwynplaine était dans les petits appartements de Corleone Lodge. Il avait la fièvre de partir, d'être dehors, de revoir Dea. Cet enchevêtrement de corridors et de cellules, de portes dérobées, de portes imprévues, l'arrêtait et le ralentissait. Il eût voulu y courir. Il était forcé d'y errer. Il croyait n'avoir qu'une porte à pousser. Il avait un écheveau à débrouiller. Après une chambre, une autre, puis des carrefours de salons. Il ne rencontrait rien de vivant. Il écoutait aucun mouvement. Il lui semblait parfois revenir sur ses pas. Par moments, il croyait voir quelqu'un venir à lui. Ce n'était personne. C'était lui, dans une glace, en habit de seigneur. C'était lui, invraisemblable. Il se reconnaissait, mais pas tout de suite. Il allait, prenant tous les passages qui s'offraient. Il s'engageait dans des méandres d'architecture intime. Là, un cabinet coquettement peint et sculpté, un peu obscène et très discret. Là, une chapelle équivoque, tout écaillée de nacres et d'émaux, avec des ivoires faits pour être vus à la loupe, comme des dessus de tabatière. Là, un de ces précieux retraits florentins accommodés pour les hypocondries féminines et qu'on appelait dès lors boudoir. Partout, sur les plafonds, sur les murs, sur les planchers même, il y avait des figurations veloutées ou métalliques d'oiseaux et d'arbres, des végétations extravagantes enroulées de perles, des bossages de passementeries, des nappes de jais, des guerriers, des rennes, des tritones cuirassés d'un ventre d'hydre. Les biseaux des cristaux taillés ajoutaient des effets de prisme à des effets de reflets. Les verroteries jouaient les pierreries. On voyait étinceler des encoignures sombres. On ne savait si toutes ces facettes lumineuses où des vers d'émeraude s'amalgamaient à des ors de soleil levant et où flottaient des nuées gorges de pigeons étaient des miroirs microscopiques ou des aigues marines démesurées. Magnificence à la fois délicate et énorme. C'était le plus mignon des palais, à moins que ce ne fût le plus colossal des écrins. Une maison pour Mab ou un bijou pour Géo. Gwynplaine cherchait l'issue. Il ne la trouvait pas. Impossible de s'orienter. Rien de capiteux comme l'opulence quand on la voit pour la première fois. Mais en outre, c'était un labyrinthe. À chaque pas, une magnificence lui faisait obstacle. Cela semblait résister à ce qui s'en alla. Cela avait l'air de ne pas vouloir le lâcher. Il était comme dans une glu de merveille. Il se sentait saisi et retenu. « Quel horrible palais !» pensait-il. Il rôdait dans ce dédale, inquiet, se demandant ce que cela voulait dire. S'il était en prison, s'irritant, aspirant à l'air libre, il répétait « Dea, Dea !» Comme on tient le fil qu'il ne faut pas laisser rompre et qui vous fera sortir. Par moments, il appelait « Hé, quelqu'un !» Rien ne répondait. Ses chambres n'en finissaient pas. C'était désert, silencieux, splendide, sinistre. On se figure ainsi les châteaux enchantés. Des bouches de chaleur cachées entretenaient dans ces corridors et dans ces cabinets une température d'été. Le mois de juin semblait avoir été pris par quelques magiciens et enfermé dans ce labyrinthe. Par moments, cela sentait bon. On traversait des bouffées de parfums comme s'il y avait là des fleurs invisibles. On avait chaud. Partout des tapis. On eût pu se promener nu. Gwynplaine regardait par les fenêtres. L'aspect changeait. Il voyait tantôt des jardins remplis des fraîcheurs du printemps et du matin, tantôt de nouvelles façades avec d'autres statues, tantôt des patios à l'espagnole, qui sont de petites cours quadranculaires entre de grands bâtiments, dallées, moisies et froides. Parfois une rivière qui était la Tamise, parfois une grosse tour qui était Windsor. Dehors, de si grand matin, il n'y avait point de passants. Il s'arrêtait, il écoutait. « Oh, je m'en irai, disait-il, je rejoindrai Déa. On ne me gardera pas de force. Malheur à qui voudrait m'empêcher de sortir. Qu'est-ce que c'est que cette grande tour-là? S'il y a un géant, un dogue d'enfer, une tarasque, pour barrer la porte dans ce palais ensorcelé, je l'exterminerai. Une armée, je la dévorerai. Déa! Déa! » Tout à coup, il entendit un petit bruit très faible. Cela ressemblait à de l'eau qui coule. Il était dans une galerie étroite, obscure, fermée à quelques pas devant lui par un rideau fendu. Il alla à ce rideau, l'écarta, entra. Il pénétra dans de l'inattendu. Chapitre 3. Ève. Une salle octogone, voûtée en anse de panier, sans fenêtre, éclairée d'un jour d'en haut, toute revêtue, murs, pavages et voûtes de marbre fleur de pêcher. Au milieu de la salle, un baldaquin pinacle en marbre drap mortuaire, à colonnes torses, dans le style pesant et charmant d'Élisabeth, couvrant d'ombre une vasque baignoire du même marbre noir. Au milieu de la vasque, un fin jaillissement d'eau odorante et tiède remplissant doucement et lentement la cuve. C'est là ce qu'il avait devant les yeux. Bain noir fait pour changer la blancheur en resplendissement. C'était cette eau qu'il avait entendue. Une fuite ménagée dans la baignoire à un certain niveau ne la laissait pas déborder. La vasque fumait, mais si peu qu'il y avait à peine quelques buées sur le marbre. Le grêle jet d'eau était pareil à une souple verge d'acier fléchissante au moindre souffle. Aucun meuble, si ce n'est, près de la baignoire, une de ces chaises-lits à coussins assez longues pour qu'une femme, qui y est étendue, puisse avoir à ses pieds son chien ou son amant, d'où canalpi dont nous avons fait canapé. C'était une chaise longue d'Espagne, vu que le bas était en argent. Les coussins et le capiton étaient de soie glacée blanc. De l'autre côté de la baignoire se dressait, adossée au mur, une haute étagère de toilette en argent massif avec tous ses ustensiles, ayant à son milieu 8 petites glaces de Venise ajustées dans un châssis d'argent et figurant une fenêtre. Dans le pan coupé de muraille, le plus voisin du canapé, était entaillée une baie carrée qui ressemblait à une lucarne et qui était bouchée d'un panneau fait d'une lame d'argent rouge. Ce panneau avait des gonds comme un volet. Sur l'argent rouge brillait, niellé et doré, une couronne royale. Au-dessus du panneau était suspendu et scellé au mur un timbre qui était en vermeil, à moins qu'il ne fût en or. Vis-à-vis l'entrée de cette salle, en face de Gwynplaine qui s'était arrêté court, le pan coupé de marbre manquait. Il était remplacé par une ouverture de même dimension, allant jusqu'à la voûte et fermée d'une large et haute toile d'argent. Cette toile, d'une ténuité féerique, était transparente. On voyait au travers. Au centre de la toile, à l'endroit où est d'ordinaire l'araignée, Gwynplaine aperçut une chose formidable, une femme nue. Nue à la lettre, non. Cette femme était vêtue, et vêtue de la tête aux pieds. Le vêtement était une chemise, très longue, comme les robes d'anges dans les tableaux de sainteté, mais si fine qu'elle semblait mouillée. De là un à peu près de femme nue, plus traître et plus périlleux que la nudité franche. L'histoire a enregistré des processions de princesses et de grandes dames entre deux files de moines, où, sous prétexte de pieds nus et d'humilité, la duchesse de Montpensier se montrait ainsi à tout Paris dans une chemise de dentelle. Correctif, un cierge à la main. La toile d'argent, diaphane comme une vitre, était un rideau. Elle n'était fixée que du haut et pouvait se soulever. Elle séparait la salle de marbre, qui était une salle de bain, d'une chambre, qui était une chambre à coucher. Cette chambre, très petite, était une espèce de grotte de miroir. Partout des glaces de Venise, contiguës, ajustées polyédriquement, reliées par des baguettes dorées, réfléchissaient le lit qui était au centre. Sur ce lit, d'argent comme la toilette et le canapé, était couchée la femme. Elle dormait. Elle dormait la tête renversée, un de ses pieds refoulant ses couvertures, comme la succube au-dessus de laquelle le rêve bat des ailes. Son oreiller de guipure était tombé à terre sur le tapis. Entre sa nudité et le regard, il y avait deux obstacles, sa chemise et le rideau de gaze d'argent. Deux transparences. La chambre, plutôt alcôve que chambre, était éclairée avec une sorte de retenue par le reflet de la salle de bain. La femme, peut-être, n'avait pas de pudeur, mais la lumière en avait. Le lit n'avait ni colonne, ni dais, ni ciel, de sorte que la femme, quand elle ouvrait les yeux, pouvait se voir mille fois nue dans les miroirs au-dessus de sa tête. Les draps avaient le désordre d'un sommeil agité. La beauté des plis indiquait la finesse de la toile. C'était l'époque où une reine, songeant qu'elle serait damnée, se figurait l'enfer ainsi, un lit avec de gros draps. Du reste, cette mode du sommeil nu venait d'Italie et remontait aux Romains. « Sub clara nuda lucerna », dit Horace. Une robe de chambre en soie singulière, de Chine sans doute, car dans les plis on entrevoyait un grand lézard d'or, était jetée sur le pied du lit. Au-delà du lit, au fond de l'alcôve, il y avait probablement une porte, masquée et marquée par une assez grande glace, sur laquelle étaient peints des paons et des cygnes. Dans cette chambre faite d'ombre, tout reluisait. Les espacements entre les cristaux et les dorures étaient enduits de cette matière étincelante qu'on appelait à Venise « fiel de verre ». Au chevet du lit était fixé un pupitre en argent à tasseaux tournants et à flambeau fixe sur lequel on pouvait voir un livre ouvert, portant au haut des pages ce titre en grosses lettres rouges « Alcoramus Mahumedis ». Gwynplaine ne percevait aucun de ces détails. La femme, voilà ce qu'il voyait. Il était à la fois pétrifié et bouleversé. Ce qui s'exclut, mais ce qui existe. Cette femme, il la reconnaissait. Elle avait les yeux fermés et le visage tourné vers lui. C'était la duchesse. Elle, cet être mystérieux en qui se mélangeaient tous les resplendissements de l'inconnu. Celle qui lui avait fait faire tant de songes inavouables. Celle qui lui avait écrit une si étrange lettre. la seule femme au monde dont il put dire « Elle m'a vu et elle veut de moi ». Il avait chassé les songes, il avait brûlé la lettre, il l'avait reléguée, elle, le plus loin qu'il avait pu, hors de sa rêverie et de sa mémoire. Il n'y pensait plus, il l'avait oubliée. Il la revoyait. Il la revoyait, terrible. La femme nue, c'est la femme armée. Il ne respirait plus. Il se sentait soulevé comme un nimbe, époussé. Il regardait. Cette femme devant lui, était-ce possible? Au théâtre, duchesse, ici, Néréide, naïade, fée, toujours apparition. Il essaya de fuir et sentit que cela ne se pouvait pas. Ses regards étaient devenus deux chaînes et l'attachaient à cette vision. Était-ce une fille? Était-ce une vierge? Les deux. Mais Saline, présente peut-être dans l'invisible, devait sourire et Diane devait veiller. Il y avait sur cette beauté la clarté de l'inaccessible. Pas de pureté comparable à cette forme chaste et altière. Certaines neiges qui n'ont jamais été touchées sont reconnaissables. Les blancheurs sacrées de la Jungfrau, cette femme les avait. Ce qui se dégageait de ce front inconscient, de cette vermeille chevelure éparse, de ses cils abaissés, de ses veines bleues vaguement visibles, de ses rondeurs sculpturales des seins, des hanches et des genoux, modelant les affleurements roses de la chemise, c'était la divinité d'un sommeil auguste. Cette impudeur se dissolvait en rayonnement. Cette créature était nue avec autant de calme que si elle avait droit au cynisme divin. Elle avait la sécurité d'une olympienne qui se fait fille du gouffre et qui peut dire à l'océan « Père !» Et elle s'offrait, inabordable et superbe, à tout ce qui passe, au regard, au désir, aux démences, aux songes, aussi fièrement assoupie sur ce lit de boudoir que Vénus dans l'immensité de l'écume. Elle s'était endormie la nuit et prolongeait son sommeil au grand jour. Confiance commençait dans les ténèbres et continuait dans la lumière. Gwynplaine frémissait. Il l'admirait. Admiration malsaine et qui intéresse trop. Il avait peur. La boîte à surprise du sort ne s'épuise point. Gwynplaine avait cru être au bout. Il recommençait. Qu'était-ce que tous ces éclairs s'abattant sur sa tête sans relâche? Et enfin, foudroiement suprême, lui jetant, à lui, homme frissonnant, une déesse endormie. Qu'était-ce que toutes ces ouvertures de ciel successives, d'où finissait par sortir, désirable et redoutable, son rêve? Qu'était-ce que ces complaisances du tentateur inconnu lui apportant, l'une après l'autre, ses aspirations vagues, ses velléités confuses, jusqu'à ses mauvaises pensées devenues chairs vivantes, et l'accablant sous une enivrante série de réalités tirées de l'impossible? Et avait-il conspiration de toute l'ombre contre lui, misérable? Et qu'allait-il devenir avec tous ces sourires de la fortune sinistre autour de lui? Qu'était-ce que ce vertige arrangé exprès? Cette femme, là, pourquoi? Comment? Nulle explication. Pourquoi lui? Pourquoi elle? Était-il fait pair d'Angleterre exprès pour cette duchesse? Qui les amenait ainsi l'un à l'autre? Qui était dupe? Qui était victime? De qui abusait-on la bonne foi? Était-ce Dieu qu'on trompait? Toutes ces choses, il ne les précisait pas. Il les entrevoyait à travers une suite de nuages noirs dans son cerveau. Ce logis magique et malveillant, cet étrange palais, tenace comme une prison, était-il du complot? Gwynplaine subissait une sorte de résorption. Des forces obscures le garrottaient mystérieusement. Une gravitation l'enchaînait. Sa volonté, soutirée, s'en allait de lui. À quoi se retenir? Il était hagard et charmé. Cette fois, il se sentait irrémédiablement insensé. La sombre chute à pic dans le précipice d'éblouissement continuait. La femme dormait. Pour lui, l'état de trouble s'aggravant, ce n'était même plus la lady, la duchesse, la dame, c'était la femme. Les déviations sont dans l'homme à l'état latent. Les vices ont dans notre organisme un tracé invisible tout préparé. Même innocents et en apparence purs, nous avons cela en nous. Être sans tâche, ce n'est pas être sans défaut. L'amour est une loi, la volupté est un piège. Il y a l'ivresse et il y a l'ivrognerie. L'ivresse, c'est de vouloir une femme. L'ivrognerie, c'est de vouloir la femme. Gwynplaine, hors de lui, tremblait. Que faire contre cette rencontre? Pas de flot d'étoffe, pas d'ampleur soyeuse, pas de toilette prolixe et coquette, pas d'exagération galante cachant et montrant, pas de nuages. La nudité dans sa concision redoutable. Sorte de sommation mystérieuse, effrontement édénique. Tout le côté ténébreux de l'homme mis en demeure. Ève, pire que Satan. L'humain et le surhumain amalgamés. Extase inquiétante, aboutissant au triomphe brutal de l'instinct sur le devoir. Le contour souverain de la beauté est impérieux. Quand il sort de l'idéal et quand il daigne être réel, c'est pour l'homme une proximité funeste. Par instant, la duchesse se déplaçait mollement sur le lit et avait les vagues mouvements d'une vapeur dans l'azur, changeant d'attitude comme la nuée change de forme. Elle ondulait, composant et décomposant des courbes charmantes. Toutes les souplesses de l'eau, la femme les a. Comme l'eau, la duchesse avait on ne sait quoi d'insaisissable. Chose bizarre à dire, elle était là, chair visible, et elle restait chimérique. Palpable, elle semblait lointaine. Gwynplaine, effaré et pâle, contemplait. Il écoutait ce sein palpiter et croyait entendre une respiration de fantôme. Il était attiré, il se débattait. Que faire contre elle? Que faire contre lui? Il s'était attendu à tout, excepté à cela. Un gardien féroce en travers de la porte, quelques furieux monstres geôliers à combattre, voilà sur quoi il avait compté. Il avait prévu Cerbère, il trouvait Hébé. Une femme nue, une femme endormie. Quel sombre combat! Il fermait les paupières. Trop d'aurore dans l'œil est une souffrance. Mais à travers ses paupières fermées, tout de suite il la revoyait, plus ténébreuse, aussi belle. Prendre la fuite, ce n'est pas facile. Il avait essayé et n'avait pu. Il était enraciné comme on est dans le rêve. Quand nous voulons rétrograder, la tentation cloue nos pieds au pavé. Avancer reste possible, reculer, non. Les invisibles bras de la faute sortent de terre et nous tirent dans le glissement. Une banalité acceptée de tout le monde, c'est que l'émotion s'émousse. Rien n'est plus faux. C'est comme si l'on disait que sous l'acide nitrique tombant goutte à goutte, une plaie s'apaise et s'endort, et que l'écartèlement blase d'Amiens. La vérité est qu'à chaque redoublement, la sensation est plus aiguë. D'étonnement en étonnement, Gwynplaine était arrivé au paroxysme. Ce vase, sa raison, sous cette stupeur nouvelle, débordait. il sentait en lui un éveil effrayant. De boussole, il n'en avait plus. Une seule certitude était devant lui, cette femme. On ne sait quel irrémédiable bonheur s'entrouvrait, ressemblant à un naufrage. Plus de direction possible, un courant irrésistible et l'écueil. L'écueil, ce n'est pas le rocher, c'est la sirène. Un aimant est au fond de l'abîme. S'arracher à cette attraction, Gwynplaine le voulait. Mais comment faire? Il ne sentait plus de point d'attache. La fluctuation humaine est infinie. Un homme peut être désemparé comme un navire. L'ancre, c'est la conscience. Chose lugubre, la conscience peut casser. Il n'avait même pas cette ressource. « Je suis défigurée et terrible. Elle me repoussera. » Cette femme lui avait écrit qu'elle l'aimait. Il y a dans les crises un instant de porte-à-faux. Quand nous débordons sur le mal plus que nous ne nous appuyons sur le bien, cette quantité de nous-mêmes qui est en suspens sur la faute finit par l'emporter et nous précipite. Ce moment triste était-il venu pour Gwynplaine? Comment échapper? Ainsi, c'était elle, la duchesse, cette femme. Il l'avait devant lui, dans cette chambre, dans ce lieu désert, endormie, livrée, seule. Elle était à sa discrétion et il était en son pouvoir. La duchesse. On a aperçu une étoile au fond des espaces. On l'a admirée. Elle est si loin. Que craindre d'une étoile fixe? Un jour, une nuit, on la voit se déplacer. On distingue un frisson de lueur autour d'elle. Cet astre, qu'on croyait impassible, remue. Ce n'est pas l'étoile, c'est la comète. C'est l'immense incendiaire du ciel. L'astre marche, grandit, secoue une chevelure de pourpre, devient énorme. C'est de votre côté qu'il se dirige. Oh, terreur, il vient à vous. La comète vous connaît, la comète vous désire, la comète vous veut. Épouvantable approche céleste, ce qui arrive sur vous, c'est le trop de lumière qui est l'aveuglement. C'est l'excès de vie qui est la mort. Cette avance qui vous fait le zénith, vous la refusez. Cette offre d'amour du gouffre, vous la rejetez. Vous mettez votre main sur vos paupières, vous vous cachez, vous vous dérobez, vous vous croyez sauvé. Vous rouvrez les yeux. L'étoile redoutable est là. Elle n'est plus étoile, elle est monde. Monde ignoré, monde de lave et de braise. Dévorant prodige des profondeurs. Elle emplit le ciel. Il n'y a plus qu'elle. L'escarboucle du fond de l'infini, diamant de loin. De près et fournaise, vous êtes dans sa flamme. Et vous sentez commencer votre combustion par une chaleur de paradis. Chapitre 4. Satan. Tout à coup, la dormeuse se réveilla. Elle se dressa sur son séant avec une majesté brusque et harmonieuse. Ses cheveux de blonde soie floche se répandirent avec un doux tumulte sur ses seins. Sa chemise tombante laissa voir son épaule très bas. Elle toucha de sa main délicate son orteil rose et regarda quelques instants son pied nu, digne d'être adoré par Périclès et Copie, par Phidias. Puis elle s'étira et bâilla comme une tigresse au soleil levant. Il est probable que Gwynplaine respirait, comme lorsqu'on retient son souffle, avec effort. « Est-ce qu'il y a là quelqu'un ? » dit-elle. Elle dit cela tout en bâillant, et c'était plein de grâce. Gwynplaine entendit cette voix qu'il ne connaissait pas. Voix de charmeuse, accent délicieusement hautain, l'intonation de la caresse tempérant l'habitude du commandement. En même temps, se dressant sur ses genoux, il y a une statue antique ainsi agenouillée dans 1000 plis transparents. Elle tira à elle la robe de chambre et se jeta à bas du lit, nue et debout, le temps de voir passer une flèche et tout de suite enveloppée. En un clin d'œil, la robe de soie la couvrit. Les manches, très longues, lui cachaient les mains. On ne voyait plus que le bout des doigts de ses pieds, blancs avec de petits ongles, comme des pieds d'enfant. Elle sauta du dos un flot de cheveux qu'elle rejeta sur sa robe. Puis elle courut derrière le lit, au fond de l'alcôve, et appliqua son oreille au miroir peint qui vraisemblablement recouvrait une porte. Elle frappa contre la glace avec le petit coude que fait l'index replié. « Y a-t-il quelqu'un ? Lord David, est-ce que ce serait déjà vous ? Quelle heure est-il donc ? Est-ce toi, Barkilphedro ?» Elle se retourna. « Mais non, ce n'est pas de ce côté-ci. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la chambre de bain ? Mais répondez donc ! Au fait, non, personne ne peut venir par là. » Elle alla au rideau de toile d'argent, l'ouvrit du bout de son pied, l'écarta d'un mouvement d'épaule, et entra dans la chambre de marbre. Gwynplaine sentit comme un froid d'agonie. Nul abri. Il était trop tard pour fuir. D'ailleurs, il n'en avait pas la force. Il eût voulu que le pavé se fendît et tombait sous terre. Aucun moyen de ne pas être vu. Elle le vit. Elle le regarda, prodigieusement étonnée, mais sans aucun tressaillement, avec une nuance de bonheur et de mépris. « Tiens, » dit-elle, « Gwynplaine !» Puis, subitement, d'un bond violent, car cette chatte était une panthère, elle se jeta à son cou. Elle lui pressa la tête entre ses bras nus, dont les manches, dans cet emportement, s'étaient relevées. Et tout à coup, le repoussant, abattant sur les deux épaules de Gwynplaine ses petites mains comme des serres, elle, debout devant lui, lui, debout devant elle, elle se mit à le regarder étrangement. Elle regarda, fatale, avec ses yeux d'Abdébaran, rayon visuel mixte, ayant on ne sait quoi de louche et de sidéral. Gwynplaine contemplait cette prunelle bleue et cette prunelle noire, éperdue sous la double fixité de ce regard de ciel et de ce regard d'enfer. Cette femme et cet homme se renvoyaient l'éblouissement sinistre. Ils se fascinaient l'un l'autre, lui par la difformité, elle par la beauté, tous deux par l'horreur. Ils se taisaient, comme sous un poids impossible à soulever. Elle s'écria, « Tu as de l'esprit, tu es venu. Tu as su que j'avais été forcée de partir de Londres. Tu m'as suivi, tu as bien fait. Tu es extraordinaire d'être ici. » Une prise de possession réciproque, cela jette une sorte d'éclair. Gwynplaine, confusément avertie par une vague crainte sauvage et honnête, recula. Mais les ongles roses crispés sur son épaule le tenaient. Quelque chose d'inexorable s'ébauchait. Il était dans l'antre de la femme fauve, homme fauve lui-même. Elle reprit. « Anne, cette sotte, tu sais, la reine, elle m'a fait venir à Windsor sans savoir pourquoi. Quand je suis arrivée, elle était enfermée avec son idiot de chancelier. Mais comment as-tu fait pour pénétrer jusqu'à moi ? Voilà ce que j'appelle être un homme. Des obstacles ? Il n'y en a pas ? On est appelé, on accourt ? Tu t'es renseignée ? Mon nom, la duchesse Josiane, je pense que tu le savais. Qui est-ce qui t'a introduit ? C'est le mousse, sans doute. Il est intelligent. Je lui donnerai 100 guinées. Comment t'y es-tu pris ? Dis-moi cela. Non, ne me le dis pas. Je ne veux pas le savoir. Expliquez rapetis. Je t'aime mieux surprenant. Tu es assez monstrueux pour être merveilleux. Tu tombes de l'empyré, voilà. Ou tu montes du troisième dessous, travers la trappe de l'érèbe. Rien de plus simple, le plafond s'est écarté ou le plancher s'est ouvert. Une descente par les nuées ou une ascension dans un flamboiement de soufre. C'est ainsi que tu arrives. Tu mérites d'entrer comme les dieux. C'est dit, tu es mon amant. Gwynplaine, égaré, écoutait, sentant de plus en plus sa pensée osciller. C'était fini. Et impossible de douter. La lettre de la nuit, cette femme la confirmait. Lui, Gwynplaine, amant d'une duchesse, amant aimé. L'immense orgueil aux mille têtes sombres remua dans ce cœur infortuné. La vanité, force énorme en nous, contre nous. La duchesse continua. Puisque tu es là, c'est que c'est voulu. Je n'en demande pas davantage. Il y a quelqu'un en haut ou en bas qui nous jette l'un à l'autre. Fiançailles du Styx et de l'Aurore. Fiançailles effrénées, hors de toutes les lois. Le jour où je t'ai vu, j'ai dit « C'est lui, je le reconnais, c'est le monstre de mes rêves, il sera à moi. » Il faut aider le destin, c'est pourquoi je t'ai écrit. Une question, Gwynplaine ? Crois-tu à la prédestination ? J'y crois, moi, depuis que j'ai lu le songe de Scipion dans Cicéron. Tiens, je ne remarquais pas. Un habit de gentilhomme. Tu t'es habillé en seigneur. Pourquoi pas? Tu es saltimbanque, raison de plus. Un battleur vaut un lord. D'ailleurs, qu'est-ce que les lords? Des clowns. Tu as une noble taille. Tu es très bien fait. C'est inouï que tu sois ici. Quand es-tu arrivé? Depuis combien de temps es-tu là? Est-ce que tu m'as vu nu? Je suis belle, n'est-ce pas? J'allais prendre mon bain. Oh, je t'aime. Tu as lu ma lettre? L'as-tu lu toi-même? Te l'a-t-on lu? Sais-tu lire? Tu dois être ignorant. Je te fais des questions, mais n'y réponds pas. Je n'aime pas ton son de voix. Il est doux. Un être incomparable comme toi ne devrait pas parler, mais grincer. Tu chantes, c'est harmonieux. Je hais cela. C'est la seule chose en toi qui me déplaise. Tout le reste est formidable. Tout le reste est superbe. Dans l'Inde, tu serais Dieu. Est-ce que tu es né avec ce rire épouvantable sur la face? Non, n'est-ce pas? C'est sans doute une mutilation pénale. J'espère bien que tu as commis quelques crimes. Viens dans mes bras. Elle se laissa tomber sur le canapé et le fit tomber près d'elle. Ils se trouvèrent l'un près de l'autre, sans savoir comment. Ce qu'elle disait passait sur Gwynplaine comme un grand vent. Il percevait à peine le sens de ce tourbillon de mots forcenés. Elle avait l'admiration dans les yeux. Elle parlait en tumulte, frénétiquement, d'une voix éperdue et tendre. Sa parole était une musique, mais Gwynplaine entendait cette musique comme une tempête. Elle appuya de nouveau sur lui son regard fixe. « Je me sens dégradée près de toi. Quel bonheur! Être altesse, comme c'est fade! Je suis auguste, rien de plus fatigant. Déchoir, repose. Je suis si saturée de respect que j'ai besoin de mépris. Nous sommes toutes un peu des extravagantes, à commencer par Vénus, Cléopâtre, mesdames de Chevreuse et de Longueville, et à finir par moi. Je t'afficherai, je le déclare. Voilà une amourette qui fera une contusion à la royale famille Stuart dont je suis. Ah, je respire, j'ai trouvé l'issue. Je suis hors de la majesté. Être déclassé, c'est être délivré. Tout rompre, tout braver, tout faire, tout défaire, c'est vivre. Écoute, je t'aime. » Elle s'interrompit et eut un effrayant sourire. « Je t'aime, non seulement parce que tu es difforme, mais parce que tu es vile. J'aime le monstre et j'aime l'histrion. Un amant humilié, bafoué, grotesque, hideux, exposé au rire sur ce pilori qu'on appelle un théâtre. Cela a une saveur extraordinaire. C'est mordre aux fruits de l'abîme. Un amant infamant, c'est exquis. Avoir sous la dent la pomme, non du paradis, mais de l'enfer. Voilà ce qui me tente. J'ai cette faim et cette soif, et je suis cette Ève-là, l'Ève du gouffre. Tu es probablement, sans le savoir, un démon. Je me suis gardé à un masque du songe. Tu es un pantin dont un spectre tient les fils. Tu es la vision du grand rire infernal. Tu es le maître que j'attendais. Il me fallait un amour comme en ont les Médées et les Canidies. J'étais sûre qu'il m'arriverait une de ces immenses aventures de la nuit. Tu es ce que je voulais. Je te dis là un tas de choses que tu ne dois pas comprendre. Gwynplaine, personne ne m'a possédé. Je me donne à toi pur comme de la braise ardente. Tu ne me crois pas, évidemment, mais si tu savais comme cela m'est égal. Ces paroles avaient le pêle-mêle de l'éruption. Une piqûre au flanc de l'Etna donnerait l'idée de ce jet de flamme. Gwynplaine balbutia. « Madame !» Elle lui mit la main sur la bouche. « Silence ! Je te contemple. Gwynplaine, je suis l'immaculée effrénée. Je suis la vestale bacchante. Aucun homme ne m'a connue, et je pourrais être Pythie à Delphes, et avoir sous mon talon nu le trépied de bronze où les prêtres, accoudés sur la peau de Python, chuchote des questions au dieu invisible. Mon cœur est de pierre, mais il ressemble à ces cailloux mystérieux que la mer roule au pied du rocher Huntley Nab, à l'embouchure de la Tise, et dans lesquels, si on les casse, on trouve un serpent. Ce serpent, c'est mon amour, amour tout-puissant, car il t'a fait venir. La distance impossible était entre nous. J'étais dans Sirius et tu étais dans Aliot. Tu as fait la traversée démesurée et te voilà. C'est bien. Tais-toi. Prends-moi. » Elle s'arrêta. Il frissonnait. Elle se remit à sourire. « Vois-tu, Gwynplaine, rêver, c'est créer. Un souhait est un appel. Construire une chimère, c'est provoquer la réalité. » L'ombre toute puissante et terrible ne se laisse pas défier. Elle nous satisfait. Te voilà. Oserais-je me perdre? Oui. Oserais-je être ta maîtresse, ta concubine, ton esclave, ta chose? Avec joie. Gwynplaine, je suis la femme. La femme, c'est de l'argile qui désire être fange. J'ai besoin de me mépriser. Cela assaisonne l'orgueil. L'alliage de la grandeur, c'est la bassesse. Rien ne se combine mieux. Méprise-moi. Toi, qu'on méprise. L'avilissement sous l'avilissement, quelle volupté! La fleur double de l'ignominie. Je la cueille. Foule-moi aux pieds. Tu ne m'en aimeras que mieux. Je le sais, moi. Sais-tu pourquoi je t'idolâtre? Parce que je te dédaigne. Tu es si au-dessous de moi que je te mets sur un autel. Mêler le haut et le bas, c'est le chaos. Et le chaos me plaît. Tout commence et finit par le chaos. Qu'est-ce que le chaos? Une immense souillure. Et avec cette souillure, Dieu a fait la lumière. Et avec cet égout, Dieu a fait le monde. Tu ne sais pas à quel point je suis perverse. Pétris un astre dans de la boue. Ce sera moi. » Ainsi parlait cette femme formidable, montrant nue par sa robe défaite son torse de vierge. Elle poursuivit. « Louve pour tous, chienne pour toi. Comme on va s'étonner. L'étonnement des imbéciles est doux. Moi, je me comprends. Suis-je une déesse ? Amphitrite, c'est donné au cyclope. Fluctivoma Amphitrite. Suis-je une fée? Urgelle s'est livrée à Bugrix, l'andropète aux huit mains palmées. Suis-je une princesse? Marie Stuart à Eurydio. Trois belles, trois monstres. Je suis plus grande qu'elle, car tu es pire qu'eux. Gwynplaine, nous sommes faits l'un pour l'autre. Le monstre que tu es dehors, je le suis dedans. De là mon amour. Caprice, soit. Qu'est-ce que l'ouragan? Un caprice. Il y a entre nous une affinité sidérale. L'un et l'autre, nous sommes de la nuit. Toi par la face, moi par l'intelligence. À ton tour, tu me crées. Tu arrives, voilà mon âme dehors. Je ne la connaissais pas. Elle est surprenante. Ton approche fait sortir l'hydre de moi, déesse. Tu me révèles ma vraie nature. Tu me fais faire la découverte de moi-même. Vois comme je te ressemble. Regarde dans moi, comme dans un miroir. Ton visage, c'est mon âme. Je ne savais pas être à ce point terrible. Moi aussi, je suis donc un monstre. Oh, Gwynplaine, tu me désennuies. Elle eut un étrange rire d'enfant, s'approcha de son oreille et lui dit tout bas. Veux-tu voir une femme folle? C'est moi. Son regard entrait dans Gwynplaine. Un regard est un filtre. Sa robe avait des dérangements redoutables. L'extase aveugle et bestiale envahissait Gwynplaine. Extase où il y avait de l'agonie. Pendant que cette femme parlait, il sentait comme des éclaboussures de feu. Il sentait sourdre l'irréparable. Il n'avait pas la force de dire un mot. Elle s'interrompait, elle le considérait. « Oh, monstre !» murmurait-elle. Elle était farouche. Brusquement, elle lui saisit les mains. « Gwynplaine, je suis le trône. Tu es le tréteau. Mettons-nous de plein pied. Ah, je suis heureuse. Me voilà tombée. Je voudrais que tout le monde puisse savoir à quel point je suis abjecte. On s'en prosternerait davantage, car plus on a bord, plus on rampe. Ainsi est fait le genre humain. Hostile, mais reptile. Dragon, mais vert. Oh, je suis dépravée comme les dieux. On ne peut toujours pas m'ôter cela d'être la bâtarde d'un roi. J'agis en reine. Qu'est-ce que Rhodope? Une reine qui est ma fête, l'homme à la tête de crocodile. Elle a bâti en son honneur la troisième pyramide. Penthésilée a aimé le centaure qui s'appelle le Sagittaire et qui est une constellation. Et que dis-tu d'Anne d'Autriche? Mazarin était-il assez laid? Tu n'es pas laid, toi. Tu es difforme. Le laid est petit, le difforme est grand. Le laid, c'est la grimace du diable derrière le beau. Le difforme est l'envers du sublime. C'est l'autre côté. L'Olympe a deux versants, l'un dans la clarté, donne Apollon, l'autre dans la nuit, donne Polyphème. Toi, tu es titan. Tu serais Béhémos dans la forêt, Léviathan dans l'océan, Typhon dans le cloaque. Tu es suprême. Il y a de la foudre dans ta difformité. Ton visage a été dérangé par un coup de tonnerre. Ce qui est sur ta face, c'est la torsion courroucée du grand point de flamme. Il t'a pétri et il a passé. La vaste colère obscure a, dans un accès de rage, englué ton âme sous cette effroyable figure surhumaine. L'enfer est un réchaud pénal où chauffe ce fer rouge qu'on appelle la fatalité. Tu es marqué de ce fer-là. T'aimer, c'est comprendre le grand. J'ai ce triomphe. Être amoureuse d'Apollon, le bel et fort. La gloire se mesure à l'étonnement. Je t'aime. J'ai rêvé de toi des nuits, des nuits, des nuits. C'est ici un palais à moi. Tu verras mes jardins. Il y a des sources sous les feuilles, des grottes où l'on peut s'embrasser, et de très beaux groupes de marbre qui sont du cavalier Bernin. Et des fleurs. Il y en a trop. Au printemps, c'est un incendie de roses. T'ai-je dit que la reine était ma sœur ? Fais de moi ce que tu voudras. Je suis faite pour que Jupiter baise mes pieds et pour que Satan me crache au visage. As-tu une religion ?
Moi, je suis papiste.
Mon père, Jacques II, est mort en France avec un tas de jésuites autour de lui. Jamais je n'ai ressenti ce que j'éprouve auprès de toi. Oh, je voudrais être le soir avec toi, pendant qu'on ferait de la musique, tous deux adossés au même coussin, sous le tendelet de pourpre d'une galère d'or, au milieu des douceurs infinies de la mer.
Insulte-moi, bats-moi, paie-moi, traite-moi comme une créature.
Je t'adore. Les caresses peuvent rugir. En doutez-vous ? Entrez chez les lions. L'horreur était dans cette femme et se combinait avec la grâce. Rien de plus tragique. On sentait la griffe, on sentait le velours. C'était l'attaque féline mêlée de retraite. Il y avait du jeu et du meurtre dans ce va-et-vient. Elle idolâtrait insolemment. Le résultat, c'était la démence communiquée. Fatal langage, inexprimablement violent et doux. Ce qui insultait n'insultait pas. Ce qui adorait outrageait. Ce qui souffletait déifiait. Son accent imprimait à ses paroles furieuses et amoureuses on ne sait quelle grandeur prométhéenne. Les fêtes de la grande déesse, chantées par Eschyle, donnaient aux femmes cherchant les satyres sous les étoiles cette sombre rage épique. Ces paroxysmes compliquaient les danses obscures sous les branches de Dodone. Cette femme était comme transfigurée, s'il est possible qu'on se transfigure du côté opposé au ciel. Ses cheveux avaient des frissons de crinière. Sa robe se refermait, puis se rouvrait. Rien de charmant comme ce sein plein de cris sauvages. Les rayons de son œil bleu se mêlaient au flamboiement de son œil noir. Elle était surnaturelle. Gwynplaine, défaillant, se sentait vaincu par la pénétration profonde d'une telle approche. « Je t'aime » cria-t-elle, et elle le mordit d'un baiser. Homer a des nuages qui peut-être allaient devenir nécessaires sur Gwynplaine et Josiane, comme sur Jupiter et Junon. Pour Gwynplaine, être aimé par une femme qui avait un regard et qui le voyait, avoir sur sa bouche informe une pression de lèvres divines, c'était exquis et fulgurant. Il sentait devant cette femme pleine d'énigmes tout s'évanouir en lui. Le souvenir de Déa se débattait dans cette ombre avec de petits cris. Il y a un bas-relief antique qui représente le sphinx mangeant un amour. Les ailes du doux être céleste saignent entre ses dents féroces et souriantes. Est-ce que Gwynplaine aimait cette femme ? Est-ce que l'homme a, comme le globe, deux pôles ? Sommes-nous sur notre axe inflexible la sphère tournante, astre de loin, bout de près, où alternent le jour et la nuit ? Le cœur a-t-il deux côtés, l'un qui aime la lumière, l'autre qui aime dans les ténèbres ? Ici la femme rayon, là la femme cloaque. L'ange est nécessaire. Est-ce qu'il serait possible que le démon lui aussi fût un besoin ? Y a-t-il pour l'âme l'aile de chauve-souris ? L'heure crépusculaire sonne-t-elle fatalement pour tous ? La faute fait-elle partie intégrante de notre destinée non refusable ? Le mal dans notre nature est-il à prendre en bloc avec le reste ? Est-ce que la faute est une dette à payer ? Frémissement profond. Et une voix pourtant nous dit que c'est un crime d'être faible. Ce que Gwynplaine éprouvait était indicible. La chair, la vie, l'effroi, la volupté, une ivresse accablée, et toute la quantité de honte qu'il y a dans l'orgueil. Est-ce qu'il allait tomber ? Elle répéta : « Je t'aime !» Et
Frénétique, elle l'étreignit contre sa poitrine. Gwynplaine haletait. Tout à coup, tout près d'eux, une petite sonnerie ferme et claire vibra. C'était le timbre scellé dans le mur qui tintait. La duchesse tourna la tête et dit « Qu'est-ce qu'elle me veut ?» Et brusquement, avec le bruit d'une trappe à ressort, le panneau d'argent incrusté d'une couronne royale s'ouvrit. L'intérieur d'un tour, tapissé de velours bleu prince, apparut avec une lettre sur une assiette d'or. Cette lettre était volumineuse et carrée et posée de façon à montrer le cachet, qui était une grande empreinte sur de la cire vermeille. Le timbre continuait de sonner. Le panneau ouvert touchait presque au canapé où tous deux étaient assis. La duchesse, penchée et se retenant d'un bras au cou de Gwynplaine, étendit l'autre bras, prit la lettre sur l'assiette et repoussa le panneau. Le tour se referma et le timbre se tut. La duchesse cassa la cire entre ses doigts, défit l'enveloppe, en tira deux plis qu'elle contenait et jeta l'enveloppe à terre aux pieds de Gwynplaine. Le seau de cire brisé restait déchiffrable et Gwynplaine put y distinguer une couronne royale et au-dessous la lettre A. L'enveloppe déchirée étalait ses deux côtés, de sorte qu'on pouvait en même temps lire la suscription « À sa grâce, la duchesse Josiane ». Les deux plis qu'avait contenu l'enveloppe étaient un parchemin et un vélin. Le parchemin était grand, le vélin était petit. Sur le parchemin était empreint un large sceau de chancellerie, en cette cire verte, dite cire de seigneurie. La duchesse, toute palpitante et les yeux noyés d'extase, fit une imperceptible moue d'enduit. « Ah ! » dit-elle, « qu'est-ce qu'elle m'envoie là ? Une paperasse ! Quel trouble faite que cette femme !» Et, laissant de côté le parchemin, elle entr'ouvrit le vélin. « C'est de son écriture, c'est de l'écriture de ma sœur. Cela me fatigue. Gwynplaine, je t'ai demandé si tu savais lire. Sais-tu lire ?» Gwynplaine fit de la tête signe que oui. Elle s'étendit sur le canapé, presque comme une femme couchée, cacha soigneusement ses pieds sous sa robe et ses bras sous ses manches, avec une pudeur bizarre, tout en laissant voir son sein. Et, couvrant Gwynplaine d'un regard passionné, elle lui tendit le vélin. « Eh bien, Gwynplaine, tu es à moi. Commence ton service. Mon bien-aimé, lis-moi ce que m'écrit la reine. » Gwynplaine prit le vélin. Il défit le pli, et d'une voix où il y avait toutes sortes de tremblements, il le lut. « Madame, nous vous envoyons gracieusement la copie ci-jointe d'un procès-verbal, certifié et signé par notre serviteur William Cowper, lord chancelier de ce royaume d'Angleterre, et duquel il résulte cette particularité considérable que le fils légitime de Lord Linnaeus Clancharlie vient d'être constaté et retrouvé, sous le nom de Gwynplaine, dans la bassesse d'une existence ambulante et vagabonde et parmi des saltimbanques et bateleurs. Cette suppression d'État remonte à son plus bas âge. En conséquence des lois du royaume et en vertu de son droit héréditaire, Lord Fermain Clancharlie, fils de Lord Linnaeus, sera, ce jour lui-même, admis et réintégré dans la Chambre des Lords. C'est pourquoi, voulant vous bien traiter et vous conserver la transmission des biens et domaines des Lords Clancharlie en Kerville, nous le substituons dans vos bonnes grâces à Lord David Derrymore. Nous avons fait amener Lord Fermain dans votre résidence de Corleone Lodge. Nous commandons et voulons, comme reine et sœur, que notre dit Lord Fermain Clancharlie, non jusqu'à ce jour Gwynplaine, soit votre mari, et vous l'épouserez, c'est notre plaisir royal. » Pendant que Gwynplaine lisait, avec des intonations qui chancelaient presque à chaque mot, la duchesse, soulevée du coussin du canapé, écoutait.
l'œil fixe. Comme Gwynplaine achevait, elle lui arracha la lettre. « Anne, reine !» dit-elle, lisant la signature avec une intonation de rêverie. Puis elle ramassa à terre le parchemin qu'elle avait jeté et y promena son regard. C'était la déclaration des naufragés de la Matutina, copiée sur un procès-verbal signé du shérif de Southwark et du lord chancelier. Le procès-verbal lu, elle relut le message de la reine. Puis elle dit « Soit !» Et, calme, montrant du doigt à Gwynplaine la portière de la galerie par où il était entré. « Sortez !» dit-elle. Gwynplaine, pétrifiée, demeura immobile. Elle reprit, glaciale, « Puisque vous êtes mon mari, sortez !» Gwynplaine, sans parole, les yeux baissés comme un coupable, ne bougeait pas. Elle ajouta « Vous n'avez pas le droit d'être ici, c'est la place de mon amant. » Gwynplaine était comme clouée. « Bien, dit-elle, ce sera moi, je m'en vais. Ah, vous êtes mon mari, rien de mieux, je vous hais. » Et se levant, jetant à on ne sait qui dans l'espace un hautain geste d'adieu, elle sortit. La portière de la galerie se referma sur elle. Chapitre 5. On se reconnaît, mais on ne se connaît pas. Gwynplaine demeura seul, seul en présence de cette baignoire tiède et de ce lit défait. La pulvérisation des idées était en lui à son comble. Ce qu'il pensait ne ressemblait pas à de la pensée. C'était une diffusion, une dispersion, l'angoisse d'être dans l'incompréhensible. Il avait en lui quelque chose comme le « sauf qui peut » d'un rêve. L'entrée dans les mondes inconnus n'est pas une chose simple. À partir de la lettre de la duchesse, apportée par le mousse, une série d'heures surprenantes avait commencé pour Gwynplaine. De moins en moins intelligible. Jusqu'à cet instant, il était dans le songe, mais il y voyait clair. Maintenant, il y tâtonnait. Il ne pensait pas, il ne songeait même plus. Il subissait. Il restait assis sur le canapé, à l'endroit où la duchesse l'avait laissé. Tout à coup, il y eut dans cette ombre un bruit de pas. C'était un pas d'homme. Ce pas venait du côté opposé à la galerie par où était sortie la duchesse. Il approchait, et on l'entendait sourdement, mais nettement. Gwynplaine, quelle que fût son absorption, prêta l'oreille. Subitement, au-delà du rideau de toile d'argent que la duchesse avait laissé entr'ouvert, derrière le lit, la porte, qu'il était aisé de soupçonner sous la glace peinte, s'ouvrit toute grande. Et une voix, mâle et joyeuse, chantant à pleine gorge, jeta dans la chambre au miroir ce refrain d'une vieille chanson française. Trois petits gorées sur leur fumier juraient comme des porteurs de chaises. Un homme entra. Cet homme avait l'épée au côté et à la main, un chapeau à plumes avec ganses et cocarde, et était vêtu d'un magnifique habit de mer, galonné. Gwynplaine se dressa comme si un ressort le mettait debout. Il reconnut cet homme, et cet homme le reconnut. De leurs deux bouches stupéfaites s'échappa en même temps ce double cri. « Gwynplaine ! Tom Jimjack !» L'homme au chapeau à plumes marcha sur Gwynplaine, qui croisa les bras. « Comment es-tu ici, Gwynplaine ?»« Et toi, Tom Jimjack, comment y viens-tu ?»« Ah, je comprends, Josiane, un caprice. Un saltimbanque qui est un monstre, c'est trop beau pour qu'on y résiste. Tu t'es déguisé pour venir ici, Gwynplaine. »« Et toi aussi, Tom Jimjack. »« Gwynplaine, que signifie cet habit de seigneur ?»« Tom Jimjack. » Que signifie cet habit d'officier ? Gwynplaine, je ne réponds pas aux questions. Ni moi, Tom Jimjack. Gwynplaine, je ne m'appelle pas Tom Jim Jake.
Tom Jim Jake, je ne m'appelle pas Gwynplaine.
Gwynplaine, je suis ici chez moi.
Je suis ici chez moi, Tom Jim Jake.
Je te défends de me faire écho. Tu as l'ironie, mais j'ai ma canne. Trêve à tes parodies, misérable drôle.
Gwynplaine devint pâle.
Drôle toi-même, et tu me rendras raison de cette insulte.
Dans ta baraque tant que tu voudras, à coups de poing.
Ici, et à coups d'épée.
L'ami Gwynplaine, l'effet est affaire de gentilhomme. Je ne me bats qu'avec mes pareils. Nous sommes égaux devant le poing, inégaux devant l'épée.
Aline Tadcaster, Tom Jim Jack, peut boxer Gwynplaine.
À Windsor, c'est différent.
Apprends ceci. Je suis contre-amiral.
Et moi, je suis pair d'Angleterre.
L'homme en qui Gwynplaine voyait Tom Jim Jack éclata de rire.
Pourquoi pas, roi ? Au fait, tu as raison. Un histrion est tous ses rôles. Dis-moi que tu es Théséus, duc d'Athènes.
Je suis pair d'Angleterre et nous nous battrons.
Gwynplaine, ceci devient long. Ne joue pas avec quelqu'un qui peut te faire fouetter.
Je m'appelle Lord David Derrymore.
Et moi, je m'appelle Lord Cloncharlie.
Lord David eut un second éclat de rire.
Ha ha, bien trouvé. Gwynplaine et Lord Cloncharlie. C'est en effet le nom qu'il faut avoir pour posséder Josiane.
Écoute, je te pardonne. Et sais-tu pourquoi? C'est que nous sommes les deux amants.
La portière de la galerie s'écarta et une voix dit
« Vous êtes les deux maris, mes seigneurs. »
Tous deux se retournèrent.
« Barkilphedro ! » s'écria Lord David.
C'était Barkilphedro, en effet. Il saluait profondément les deux lords avec un sourire. Derrière lui, à quelques pas, on apercevait un gentilhomme au visage respectueux et sévère qui avait une baguette noire à la main. Ce gentilhomme s'avança, fit trois révérences à Gwynplaine et lui dit
« Milord, je suis l'huissier de la Verge Noire. Je viens chercher votre seigneurie conformément aux ordres de sa majesté. »